Au cours de cette matinée, on vous l'a dit, deux interventions évidemment essentielles pour vous, puisqu'il s'agit dans un premier temps de la présentation des conclusions de la mission Bien-être et santé des jeunes, coécrite par Jean-Louis Brison et Marie-Rose Moreau, donc ici présente, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'APHP. C'est une mission qui a produit son rapport donc en novembre 2016, donc il y a tout juste un an, et vous y verrez qu'on y découvre des choses très intéressantes. Et juste après sera le sénateur Michel Amiel, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui viendra nous présenter les conclusions de la mission sénatoriale cette fois-ci, un tout petit peu plus récente, d'avril 2017, sur la psychiatrie des mineurs. J'imagine que vous aurez beaucoup de questions à leur poser, mais comme pour les autres intervenants, il y aura seulement 20 minutes. Donc il vous faudra être concis, de telle sorte qu'on puisse avoir un maximum de témoignages ou de questions. Alors, professeur Moreau, eh bien, c'est à vous. Vous avez une trentaine de minutes. J'ai vu des chiffres un peu édifiants, effectivement, dans votre rapport. Plus 22% de consultations, d'enfants et adolescents acceptés entre 2007 et 2014 pour les consultations en pédopsychiatrie. C'est effectivement impressionnant.
Alors, merci beaucoup de votre aimable invitation à venir parler une fois de plus, j'allais dire, parce que je l'ai beaucoup, on l'a beaucoup avec, donc Jean-Louis Brison et moi-même, on a beaucoup porté ce rapport, on l'a fait pendant un an, on a consulté plus d'une centaine de professionnels, et effectivement, on l'a remis au président de la République fin 2016. Un certain nombre de ces mesures sont déjà mises en place. Et d'autres, une n'a pas été acceptée, je vous en parlerai, et puis d'autres sont en cours. Je vais centrer sur les conclusions du rapport pour voilà, mais effectivement peut-être 2-3 points en préalable à ce dans la continuité de ce que vous me disiez, de ce que vous disiez en introduction. La question qui nous était posée, donc, de manière un peu pluridisciplinaire, hein, puisque Jean-Louis Brison, Éducation nationale, moi, Santé, et lettre de mission écrite par 4 ministres, donc l'Éducation nationale et la recherche, la santé, l'enseignement, la jeunesse, la ville, l'action sociale, c'était relativement large. Et la préoccupation et la question qui était posée, c'est comment peut-on faire alors à partir de l'école, considérant que l'école était un lieu particulier, était un lieu je reconnais plein de têtes amies dans cette assemblée, auguste assemblée. Donc, je disais que l'école est un lieu particulier où s'exprime à la fois la souffrance, parfois, il n'y a pas que ça, c'est aussi plein d'autres choses, l'école bien sûr, mais ça peut être un lieu où s'exprime la souffrance, mais c'est aussi un lieu où cette souffrance peut être prise, en tout cas, elle attire l'attention. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour le bien-être de tous, hein, ça, je crois que cette question était importante, l'esprit avec lequel on nous a, confié cette mission, le bien-être de tous, augmenter, améliorer, une prise de conscience de l'importance de cette question à cet âge de la vie. Alors, pour nous, c'est 11-21 ans, donc je me centrerai sur cette phase qui est déjà assez large, mais qui est vraiment année collège, année lycée, et puis vraiment ce passage, disons l'adolescence au sens large, et lorsqu'on devient adulte. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à cette période pour améliorer le bien-être de tous et la prise en charge de ceux qui en ont besoin? Alors, c'est vraiment cette double, et je crois que moi je tenais beaucoup, alors l'Éducation nationale bien sûr aussi, à cette double contrainte, parce que persuadée que si à la fois on n'augmente pas le bien-être de tous, on ne pourra pas non plus sensibiliser à une prise en charge bienveillante de ceux qui en ont besoin. Et je crois que ça, c'est une de nos questions en pédopsychiatrie, hein, dont, qui est finalement extrêmement difficile, hein, c'est de tenir les deux, on pourrait dire quelque chose de l'ordre de la santé publique et de la philosophie du développement et du soin, d'un côté, et puis la prise en charge clinique la mieux possible, avec des dispositifs de soins qui doivent être inventifs, qui doivent prendre en compte la question du développement. Et donc, c'était cette double contrainte. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne vais pas y insister parce qu'il est connu, mais évidemment qu'il est très, très important. Alors, les chiffres, les études, hein, parce qu'on a fait beaucoup de comparaisons internationales, elles sont toutes dans le rapport. Hein, c'est un énorme pavé, mais l'intérêt, c'était d'avoir les éléments aussi en bibliographie, puis une synthèse dans notre rapport. Donc, vous trouvez le rapport dans la documentation française, sur les sites des ministères ou sur mes sites à moi. Donc, les comparaisons internationales et puis les études nationales montraient, somme toute, à cet âge-là, une souffrance importante de nos jeunes, 8 à 10% de la classe d'âge. C'est beaucoup pour un pays tempéré, comme la France. Et c'est en plus beaucoup. Si on regarde dans les comparaisons internationales, on est à peu près vers la fin, dans ceux qui sont accessibles, en tout cas en Europe. Par exemple, moi j'avais été beaucoup frappée en comparaison, on a beaucoup comparé sur certains points avec l'Europe du Nord et puis sur d'autres avec l'Europe du Sud, parce qu'il y a des gradients entre le Nord et le Sud, évident. Mais par exemple, avec des pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, dans lesquels on est allé à plusieurs reprises, où les situations économiques, la société, au fond, assez proche de la nôtre, il y a eu des difficultés, etc. Mais la représentation que les jeunes gens ont de l'école et de leur avenir est plutôt beaucoup plus positive qu'en France. Donc, ce n'est pas simplement l'expression de la souffrance, mais c'est aussi la représentation de notre bien-être à l'école et de ce que l'on va devenir, avec là où on est les plus mauvais d'ailleurs, et je pense que ça n'appartient pas qu'aux adolescents, c'est là une représentation négative de l'avenir. Mais à cet âge-là, c'est destructeur. À cet âge-là, ça donne à ces adolescents une vision pessimiste, une vision au fond rien ne vaut rien, etc. 10%, on est 10% d'expression d'une souffrance, et puis dans des expressions négatives, on est de l'ordre, en fonction des méta-analyses, mais on est autour de 40% en France, alors que en Italie, en Espagne, c'est 10 à 20% maximum d'une classe d'âge. Donc il y a là quelque chose qui doit se modifier dans la représentation et pas seulement pour les adolescents, mais aussi pour nous, parce que bien sûr les critères ils sont identiques. L'autre point, c'est l'augmentation faramineuse des consultations. On le voit dans les CMP, dans les CMPP, dans les maisons des adolescents, qui ont été, à mon sens, un progrès important sur la prise en charge de ces adolescents, mais avec une augmentation extrêmement importante de la demande. Et alors, ce qu'on a regardé aussi dans certaines études, quand c'était possible, c'est si les demandes étaient... est-ce que c'est... On exprime plus une demande? Oui, dans certains cas, c'est ça. On laisse pas des adolescents s'enfoncer dans des dépressions ou dans des difficultés majeures, mais... il y a aussi une augmentation en absolu. Est-ce qu'elles sont justifiées? Alors là, les études, il y en avait une qui était disponible sur l'ensemble des maisons des adolescents. Les consultations, elles sont globalement à 99,9% toujours justifiées. Quoi. Enfin, on ne vient pas comme ça. Il y a parfois cette idée sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a parfois l'idée qu'on consulte pour des petites choses. Pas vraiment. C'est pas du luxe, quoi. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est une nécessité absolue. Et c'est pas du luxe. Ça n'apparaît pas ni dans la pratique, ni dans les études. Donc, augmentation très importante de ces consultations. Et puis, vous le savez, diminution, et ça, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui est le premier à sonner l'alarme. Diminution extrêmement importante de la, des pédopsychiatres en France, hein, 60 à 70% de moins en 6 ans, pour les 6 dernières années. Alors pourquoi, on pourra peut-être en discuter. En tout cas, il y a pour moi deux grandes. Dans ce rapport, on avait mis en évidence deux grands points. Premièrement, le fait que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, telle qu'elle est organisée aujourd'hui en France, est déjà extrêmement minoritaire. Par exemple, si on compare à la Grande-Bretagne, qui n'est pas connue pour être dispensieuse et très généreuse dans les postes de santé, eh bien, il y a autant de psychiatres, de professeurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Tavistock Clinic, qui est un lieu important de la pédopsychiatrie à Londres, que dans l'ensemble de la France. Hein. Il y en a autant à la Tavistock, donc, que dans l'ensemble de la France. De toute façon, nous, on est 28 en ce moment, par exemple, comme professeurs. Et les pédopsychiatres PH, du Cadre, les comparaisons sont du même ordre. Hein. C'est vraiment absolument impressionnant. Donc, on est une petite discipline et minoritaire, y compris dans la psychiatrie. Et donc, institutionnellement, on a beaucoup de mal. Il faut trouver des alliés. par exemple, moi, quand je suis arrivée à la Maison de Solène et qu'il a fallu développer cette maison des adolescents, trouver des alliés, les adultes me disaient que j'étais en train de prendre les budgets des adultes et les enfants, que je prenais les budgets des enfants et que donc, où étaient les budgets des adolescents? Bah, on ne savait pas, quoi. C'est de toute façon, lorsqu'on est en position très minoritaire, c'est une difficulté institutionnelle pour se développer. Il faut trouver des alliés de circonstances à chaque fois. Donc, c'est un problème. Et l'autre point, ça, c'est un point, le rapport du Sénat le montrait très bien, mais on l'avait aussi mis dans nos hypothèses, hein. C'est la question de la formation en France. Hein. Il y a des régions entières en France où il n'y a personne pour former les pédopsychiatres. Il n'y a pas de professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent actuellement dans 8 facultés de médecine, dans 8 à 9 en fonction des grandes facultés de médecine en France. Il n'y a personne pour former les psychiatres d'enfants et de l'adolescent. Donc, évidemment, problème institutionnel d'un côté, problème de formation de l'autre, et puis on part d'un tout petit nombre, et sans compter que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent nécessite du temps, parce qu'il faut s'occuper de l'enfant, de ses parents, des professionnels qui s'occupent de lui, etc. Et que tout ça en privé, c'est difficile, qu'il n'y a pas de reconnaissance, contrairement à la Belgique ou à la Suisse, d'actes spécifiques de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et que donc, du coup, ça rend l'activité de ceux qui sont installés en privé difficile et donc ne favorise pas du tout la prise en charge, y compris en privé, quoi. Bon, donc toutes ces raisons-là, donc augmentation de la demande, société qui demande de plus en plus aux pédopsychiatres, mais moi je trouve ça normal, moi je ne m'en plains pas. Dans notre rapport, on ne se plaint pas que la demande augmente. C'est-à-dire, la demande de la société, elle augmente. La demande de l'école, elle augmente par rapport à la pédopsychiatrie, mais on comprend la souffrance des enfants. On n'a pas à la tolérer. Enfin, encore une fois, il n'y a jamais de demande vraiment excessive. Donc, ça, c'est un point. Mais après, il faut pouvoir répondre. Alors, par rapport à ces questions, donc, je vous montre les 10 propositions pour essayer de... Alors, ça, c'est la Maison de Solène. Ça, c'est nos mails, mais bon, vous les connaîtrez facilement si vous en avez besoin pour m'écrire. Et puis, on ne voit pas très bien, mais je vous dis juste la logique, puis après, je vous montrerai mesure une par une. Bon, voilà le plan bien-être et santé des jeunes tel qu'il est sorti, avec une partie sur la santé que je vais donc vous développer, si j'y arrive. Bon, je voulais vous... J'arrive pas à pointer, mais bon, enfin, vous voyez, la santé au milieu. Des mesures qui concernent l'école elle-même. C'est dommage, quand même. Non ? Dessous ? Ben... l'école elle-même, et puis... en dessous, d'accord. la technique et des mesures qui concernent la famille et la société. Alors on va les regarder. Alors ça c'était un joli dessin que nous avions fait pour montrer que évidemment le bien-être et la santé des jeunes. Je vais arrêter de toucher à tout. Remettez-moi-le. Je vais arrêter de toucher à tout ça. Je disais que ça s'appuie les uns sur les autres, vous voyez, qu'évidemment, on a bien conscience que lorsqu'on prend on fait une proposition, par exemple, concernant les adolescents eux-mêmes, ou l'école, ou la famille, l'ensemble des acteurs, hein, il ne s'agit pas... là, les mesures, elles sont... on les a différenciées, mais il s'agit bien d'augmenter le portage, la reconnaissance de ce qui se passe pour eux, d'essayer d'augmenter les compétences de tous ceux qui sont autour d'eux pour cette prise en charge, et jusqu'à modifier un certain nombre de représentations qui empêchent finalement de bien faire avec eux. Donc c'était juste le principe. Alors la première mesure, qui est actuellement donc en expérimentation dans 3 académies, c'est le pass bien-être et santé des jeunes. Alors le pass bien-être et santé des jeunes, le principe c'était de partir de l'idée que il y avait d'abord une inégalité d'accès aux soins, une difficulté d'accès aux soins dans certains endroits, pas seulement dans les périphéries des grandes villes, par exemple, ou dans les banlieues, mais aussi dans les zones rurales. Et que l'idée, c'était de favoriser la prise en charge avec le psychologique des adolescents, et d'associer leur famille quand c'était nécessaire, et de pouvoir répertorier l'ensemble sur une application, un site et un répertoire opérationnel des ressources qui est en train d'être fait pour la partie adolescente. Donc le répertoire est en train d'être fait par le ministère et il y a une partie adolescente qui viendra, sera spécifique. Et donc la possibilité pour un adolescent, il arrive lorsqu'il s'inscrit quelque part, dans un collège, dans l'enseignement agricole, même à l'université ensuite, puisque pour nous c'était 11-21 ans, qu'il puisse donc sur sa carte scolaire avoir accès à ce pass santé jeune et qui donne le droit à toutes les informations, tout ce qui est possible, pas seulement sur le soin, hein, mais le soin bien sûr jusqu'au soin, mais aussi des choses qui peuvent participer au bien-être pour ces adolescents, et puissent accéder aussi à des psychologues qui sont dans un réseau autour du collège, autour du lycée, pour pouvoir aller consulter relativement tôt devant une question existentielle ou devant une difficulté avant que ça se transforme en symptômes constitués, sachant que certains peuvent le faire et d'autres pas. Donc l'idée, c'est que ces consultations, elles soient gratuites, en tout cas remboursées. Donc il y avait la question du remboursement des psychologues qui a été acceptée par la Sécurité sociale à condition que ce soit dans le cadre d'un réseau et d'une organisation des soins pour ces adolescents. Et donc, au-dessus de 15 ans, l'adolescent peut y accéder tout seul et en dessous de 15 ans avec l'aide de ses parents. Aux informations, il peut accéder bien sûr à tout, mais à la consultation et deux consultations pour les parents eux-mêmes.
Professeur, vous avez, je crois, 11 propositions à soumettre.
Ah oui, c'est
et 10 minutes pour les 11 propositions.
Mais ça fait rien, c'était une des propositions essentielles.
Je me suis dit si c'était aussi long, oui, voilà.
Alors, le pass santé jeune, qui est donc en expérimentation. Donc, vous avez compris l'importance de ce pass santé jeune dans la révolution aussi d'accès aux soins. Deuxièmement, donc là, on passe à quelque chose qui concerne l'école elle-même. Une formation initiale et continue pour tout le monde à l'école et autour de l'école, pour tout le monde, y compris les dames de cantine, celles qui surveillent, etc., sur les ados et sur la santé, parce qu'on sait que malheureusement, les mondes étant tellement clivés, ces formations n'ont pas vraiment lieu et que ce sont pourtant eux, par exemple la dame de cantine qui voit que cette jeune fille, elle ne mange pas, ou l'autre qui reçoit des confidences. Donc, formation pour tous sur ces questions. Une permanence téléphonique pour les professionnels qui s'occupent des adolescents, donc sur le modèle de ce qui existait à Paris, qui est prise en charge par la Fondation des étudiants de France et subventionnée en partie par l'ARS, sur l'ensemble du territoire. Donc plusieurs sont en train d'ouvrir pour que tous les professionnels qui, au foot ou à la musique, voient des adolescents en difficulté et ne savent pas comment faire, puissent demander de l'aide. Et derrière, il y a un psychologue qui répond et une supervision de ce psychologue dans des institutions où on s'occupe des adolescents. La création, mais ça s'est fait, ça a été fait depuis, du corps unique des psychologues de l'éducation nationale. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les psychologues de l'éducation nationale, maintenant, vont être des cliniciens à l'intérieur de l'école, avec les différentes composantes. C'est une manière d'articuler les savoirs de l'extérieur et de l'intérieur sur la question des soins. Alors, malheureusement, c'était pas... c'est modeste, notre forme, mais on a redit l'importance de la médecine scolaire et universitaire qui est extrêmement pauvre dans notre pays, et avec la constitution d'équipes pluridisciplinaires de santé à l'intérieur de l'école ou de l'univers, enfin de l'école ou de la ou du lycée, et pour l'université, la médecine universitaire avec les services universitaires de santé ou les BAPU. Bon, l'augmentation des pédopsychiatres et des équipes soins, recherche, enseignement sur ces questions de pédopsie, les maisons des adolescents des deuxième génération qui sont lancées. Alors la numéro 7 a été pris, Agnès Buzyn, notre nouvelle ministre, est en train de lancer un plan sur ces questions. Les nouvelles maisons des adolescents qui auront des obligations de constituer justement le réseau, l'articulation avec l'école et les familles. Alors celui-là n'a pas... Donc ça, c'est pareil, les financements ont déjà commencé. Ça, c'est celle qui n'a pas été acceptée. La création d'un Institut national de la santé des jeunes sur le modèle de l'Australie. Alors c'est un lieu où on met ensemble les progrès des différentes disciplines, les organisations institutionnelles, la question des formations spécifiques et le lobbying. C'est-à-dire l'idée qu'à un endroit, il y a des gens qui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, un nouveau texte, un nouveau concept qui apparaît sur ces questions de santé, vérifient ou proposent que des choses sont faites pour cette période de transition de 11 à 21 ans. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. C'est un peu sur le modèle de l'INCa, mais si on compare à quelque chose qui existe déjà en France, mais c'est quelque chose qui existe en Australie. En Australie, ils ont montré que depuis qu'ils ont leur institut, ça a énormément modifié, ça a eu un impact en termes de politique importante sur la santé et les prises en charge. Mais nous, on n'a pas réussi à l'imposer avec l'idée que ça passerait jamais, que non, ça passerait pas. Que ça coûte trop cher, que l'INCa coûte trop cher, alors si c'est en un de plus, non. Et on n'a pas réussi. C'était sans doute trop tard aussi par rapport au temps politique pour que ça puisse être imposé à ce moment-là. Mais j'espère que ça reviendra. Et puis, la conférence internationale sur la santé des jeunes, ça se fera. Avec son pilotage territorial, évidemment, national pour ce plan. Voilà, au fond... Voilà, je respecte mon...
Vous avez dit 11, il en manque une alors ?
Non, c'est 10.
Ah bon, d'accord.
J'avais 10 propositions, c'est 10.
Très bien, merci en tout cas pour cette présentation.